Bienvenue sur Canomer, l'émission de web radio de Réseau Canopée en direct de la mer XXL, l'exposition extraordinaire à Nantes.
Bonjour et bienvenue sur Canomer, la web radio de Canopée, de Réseau Canopée au salon mer XXL. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Anne Konitz du Conservatoire du Littoral et Madame Bénédicte Van André du Chaume. Que je vais les laisser se présenter. D'abord, Madame Konitz et votre structure.
D'accord, oui, bonjour. Donc, je travaille pour le Conservatoire du Littoral, qui est un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et qui s'occupe en France, donc en métropole, outre-mer et sur les Grands Lacs, de la préservation des espaces naturels. Et pour ma part, je suis en charge de la communication, et dans la communication, enfin, on y reviendra, mais il y a pas mal de choses, dont les données de sensibilisation et de pédagogie, et du mécénat, puisque au-delà du fait d'avoir des financements d'État, on va chercher auprès d'entreprises, auprès de donateurs particuliers, aussi des fonds de manière à supporter l'activité du conservatoire.
Merci. Madame Esvan.
Oui, bonjour. Donc moi, je travaille au CHOM. Donc le CHOM, c'est également un établissement public national qui est, lui, sous tutelle du ministère des Armées. Et nous, notre vocation, notre métier, c'est la description de l'environnement physique marin. Description et prévision. Donc on acquiert des données en mer, on traite ces données et puis ensuite on les diffuse. Et donc moi au sein du CHOM, je suis responsable de cette activité de diffusion. Donc je développe les portails qui sont data.chom.fr, diffusion.chom.fr, qui sont des portails qui permettent à tous d'accéder à nos données.
Et quel est le lien de vos structures et les actions de vos structures à destination des scolaires et des établissements, Madame Konitz?
Alors, c'est quelque chose qui est venu, on va dire, en cours de route, hein, puisque le conservatoire existe depuis 1975. Et en fait, on est une agence foncière, puisqu'on achète des sites, des espaces naturels qu'on va restaurer pour les ouvrir au public. La donnée pédagogique s'est installée petit à petit, on va dire un peu en marchant, au fur et à mesure qu'on apprenait aussi ce métier de préservation des espaces naturels. Et on a commencé, alors assez timidement, parce qu'on considérait que ce n'était pas véritablement ni notre mission, ni nos qualités, à nous adresser aux scolaires. Alors il y a plusieurs entrées. Il y a le fait que quand on a des sites préservés, il y a un travail qui se met en place avec les collectivités locales, et les collectivités embauchent les gardes du littoral. C'est les personnes qu'on va rencontrer sur les sites protégés, et les gardes du littoral font finalement beaucoup de pédagogie, puisqu'ils reçoivent le public, ils reçoivent beaucoup de classes, ils reçoivent des centres de loisirs. Et donc, on s'est rendu compte que petit à petit, tout ce matériau qu'on développait finalement site par site pouvait être compilé et adressé de manière peut-être plus ciblée aux enseignants. Donc, on a fait le choix de nous adresser aux enseignants dès le départ et pas aux enfants directement, puisqu'on n'avait pas véritablement les entrées, les moyens. Et avec l'aide d'un de nos mécènes très sensibilisé à ces questions de pédagogie, on a développé des outils, on va dire, un peu classiques, des kits pédagogiques, et on a balayé à peu près tous les niveaux sur la question de la préservation des espaces naturels du littoral, sur la biodiversité, sur le changement climatique, etc. Sachant que tout ça est en moyenne au programme de tous ces cycles.
Merci. Madame Esvan.
Alors nous, côté CHOM, on est un petit peu en retard sur ce domaine-là. Et effectivement, c'est par l'ouverture des données qu'on a envie aujourd'hui de s'adresser aux jeunes et d'aller vers des orientations de développement de programmes pédagogiques. Donc aujourd'hui, on a déjà des chercheurs au CHOM qui travaillent en relation avec Océanopolis à Brest, puisque nous sommes basés à Brest, où il y a des programmes d'accompagnement des scolaires pour mener des projets autour du maritime. Et donc, dans ces projets-là, on présente nos données aux collèges, aux établissements qui participent à ce concours-là. Et on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt des jeunes pour ces données. Et du coup, aujourd'hui, on aimerait bien développer ça. Notre portail est accessible en ligne aujourd'hui, permet d'accéder à beaucoup de données qui pourraient intéresser les jeunes. Et maintenant, il faut qu'on développe ce lien avec les équipes pédagogiques et donc, pourquoi pas, avec le réseau Canopé.
Et comment s'inscrit aussi votre activité, votre établissement dans l'ouverture des données qui est un mouvement de plus en plus important, et que ce soit au niveau de la réglementation ou au niveau des usages?
Voilà, donc en tant qu'établissement public, donc nous on est concerné par la loi République numérique qui a recommandé l'ouverture de l'ensemble des données publiques. Donc aujourd'hui les données de services publics du CHOM sont accessibles librement en ligne. Accessible à n'importe quel utilisateur pour un usage privé. Après, pour une société qui veut faire du commerce avec nos données, certaines données nécessitent de payer des redevances. Et enfin, le CHOM, comme Météo France et l'IGN, nous sommes partie des établissements publics qui avons conservé le droit d'avoir des redevances sur certains de nos produits. Donc on garde certains produits commerciaux aujourd'hui qui permettent d'assurer l'équilibre économique de notre établissement, puisque l'ouverture de nos données n'a pas forcément donné lieu en retour à une augmentation de notre subvention de charges de service public qui permet de faire fonctionner l'établissement.
Madame Koenitz, vous parliez des gardiens qui se trouvent sur les sites. Est-ce qu'ils participent aussi à la récolte de données, par exemple sur la fréquentation de ces sites par la faune?
Oui, tout à fait. Alors en fait, ils sont plus de 1000 hein, sur les sites du conservatoire. Donc embauchés par les collectivités locales, et ils ont un triple rôle. Ils accueillent le public, ils s'occupent de l'entretien courant et ils ont un pouvoir de police. Donc ils sont un peu multicartes. Sur la partie entretien, le spectre s'est un peu ouvert sur justement de la récolte de données. On a développé un site qui permet d'observer ces données sur tous les aspects naturalistes, donc essentiellement faune, flore, qui s'appelle Visio Littoral et qui a été développé avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et aujourd'hui, on a une base de données très importante, actualisée, sur les espèces, de manière à pouvoir suivre les évolutions, de pouvoir observer en fonction aussi de tout l'entretien sur les sites, les marges de progrès, au contraire parfois les reculs, hein, ça arrive. Et donc ils sont un peu les sentinelles du littoral pour alimenter aussi ces bases de données. Visio Littoral est ouvert à tout le monde, hein, donc les visiteurs sont également encouragés à observer, à rentrer les données. On a, on va dire, au fil des années, simplifié un peu justement l'accès pour permettre de compiler cette donnée facilement et de pouvoir la faire vérifier. Ça, c'est un peu le travail du muséum. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui marche bien.
Et comment vous arrivez à gérer certaines contradictions, par exemple sur le fait que les gardiens font la promotion des sites, mais quelque part aussi sont là pour protéger l'accès à ces sites, ou que les données sur la fréquentation par certains animaux qui sont difficiles à observer peuvent aussi attirer des personnes sur ces sites? Quelle est la politique du conservatoire par rapport à la fois sur la communication qui est nécessaire, mais aussi la protection qu'il l'est tout autant?
Ouais, c'est tout le paradoxe lié à la protection du littoral, sachant que c'est quand même à l'origine une volonté du conservatoire d'ouvrir les sites. En fait, ce n'était pas inscrit dans la loi au départ. En fait, on était vraiment une agence foncière pour la protection du sol contre l'urbanisation. Il n'y avait pas véritablement de perspective d'ouverture au public. Et en fait, très vite, le conservatoire s'est rendu compte que si cette mission pouvait être portée par les citoyens, il fallait véritablement qu'on axe une ouverture des sites au public. Et là, les problèmes ont commencé, dans la mesure où, effectivement, faire venir, ou encourager les personnes à venir découvrir le littoral peut évidemment avoir des effets de dérangement et de dégradation. Mais parallèlement, est née quand même une science, on va dire, qui est ce génie écologique développé par des bureaux d'études, qui est tout à fait adéquate pour organiser cette fréquentation. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe bien. On est à peu près en temps de paix entre public et puis défenseurs de la nature au sens strict du terme, parce qu'en fait ce génie écologique permet un peu de sectoriser les sites et d'avoir des zones finalement où il va y avoir une affluence importante, qui vont être ouvertes au public assez librement et où il y aura pas mal d'animations de pédagogie à travers des supports pour de l'animation, etc. Et puis des zones très très protégées. Et en fin de compte, tout ça fonctionne bien parce que finalement, les gens n'ont pas besoin, n'expriment pas le besoin d'aller partout aujourd'hui. En fait, si on leur donne accès à la nature et à la compréhension de la nature, en fait, on échappe un peu au fait d'avoir des gens partout, qui sillonnent partout. La nature continue un peu à impressionner et de fait, les gens se dirigent plutôt facilement sur des sentiers balisés où on développe des supports pédagogiques.
Est-ce que le CHOM songe aussi à des contributions des particuliers, du public, aux bases de données qu'il gère ?
Alors, on a déjà également, nous, sur notre portail data.chom.fr, une fonctionnalité qui permet aux usagers de la mer de remonter des observations sur la formation nautique. Donc s'ils constatent sur une carte du CHOM ou dans un de nos ouvrages qu'il y a une information qui est erronée, qui n'est plus à jour, ils peuvent nous la remonter. Et donc cette information est analysée par nos services techniques et donc vérifiée avec les personnes qui sont responsables de ces informations. Donc ça peut être par exemple sur un phare avec les phares et balises. Et donc à partir de là, on actualise l'information dans nos bases de données et on rediffuse cette information.
Est-ce que cet accès de plus en plus facile et gratuit aux données et à la cartographie a une influence sur l'activité plus traditionnelle du CHOM, c'est-à-dire la vente des cartes marines ou finalement non, c'est un autre marché et d'autres usagers
L'ouverture des données par rapport à la vente des cartes marines, on se rend compte que oui, il y a des gens qui commencent à utiliser des logiciels qui veulent des cartes qui sont libres de droit. Mais d'un autre côté, finalement, maintenant que les cartes sont numériques, le CHOM n'est plus forcément le revendeur direct de ces cartes. C'est beaucoup des éditeurs de logiciels qui nous achètent les cartes, enfin qui nous versent des redevances pour l'utilisation des cartes. Et eux font des packages avec des formats et plein d'outils d'aide qui ne sont pas dans la formation brute que nous on fournit. Et donc les usagers se retrouvent davantage au travers de ces outils, les navigateurs. Et par contre, sur la carte papier, y a encore, outre les obligations d'emport pour certaines catégories de navires, on a aussi finalement, les gens aiment la carte papier, c'est un objet et ça, des fois c'est juste pour l'afficher chez eux, mais il y a quand même encore un amour des usagers de la mer, des navigateurs pour la carte marine.
Bien, je vous remercie tous les deux pour votre participation et bonne journée.
Merci. Bonne journée également.